A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Le cinéma arabe et le journalisme, l'Algérie entre deux portes et la France, sa terre natale. Je vous présente en sol majeur Mouloud Mimoun, on pourrait presque dire un Français de là-bas. Un nom qui fait sportif, et oui, à ne pas confondre avec l'athlète Alain Mimoun. Notre invité, lui, est un crack de la tchatch qui a volé dans les plumes de la critique cinéma. Animateur de la célèbre Cinémathèque d'Alger, critique cinéma au journal El Watan, rédacteur en chef de l'émission Mosaïque pour la télévision française il y a quelques années. Il mouille le maillot en ce moment pour le Maghreb des films qu'il a fondé et qui déroule ses bobines de films jusqu'au 18 décembre à Paris. Bonjour Mouloud Mimoun.
Bonjour Yasmine.
Sbah al-khair.
Sbah al-khair, sbah al-nour, comme disent au Moyen-Orient, c'est sbah al-nour et chez nous c'est sbah al-khair.
Absolument. Alors si je comprends bien, j'ai un retraité qui n'arrête pas.
Ben, un retraité qui est toujours actif. J'ai pris ma retraite officielle il y a 14 ans, donc à 60 ans, mais je suis toujours hyperactif, surtout de plus en plus dans le domaine du cinéma, mais également il m'arrive d'animer des débats, des conférences, pour parler pas seulement du cinéma, mais de thèmes qui me sont chers, comme l'immigration, comme la double culture, les deux rives de la Méditerranée, parce que, paradoxalement, je suis un beurre à l'envers.
Oui.
C'est-à-dire que je suis né en France, parti en Algérie à l'âge de 10 ans, revenu à l'âge de 28 ans en 1972, et voilà, donc...
Et voilà pourquoi vous êtes ici, dans ce fauteuil en sol majeur. Donc,
voilà.
C'est cette histoire qu'on va raconter. Vous savez que l'émission est écrite à quatre mains, Mouloud Mimoun,
oui,
avec l'invité. Donc c'est parti pour une première plongée en sol majeur dans votre mémoire sonore.
La marche. J'ai comme je me souviens.
Où est-ce qu'on est dans votre souvenir avec tous ces sons, Mouloud Mimoun ?
Alors avec ces sons qui nous renvoient à la liturgie catholique, je me revois à l'âge de 6 ans dans une colonie de vacances dans le Loiret.
Où
m'avaient envoyé mes parents et dont ma sœur aînée était l'une des monitrices. Et c'est la découverte d'une église, de la liturgie chrétienne. Et alors, les enfants de chœur, je vais vous faire une confidence, ça a été ma première vocation. Alors que je ne connaissais rien de la, ou très peu de la culture musulmane de mes parents.
Ah bon ?
Parce que j'étais très petit, j'avais 6 ans. Mon père était pas pratiquant, mais ma mère faisait régulièrement ses 5 prières et fréquentait assidûment la grande mosquée de Paris. Et donc, voilà, j'étais fasciné par ces gosses avec leurs grandes robes blanches et puis leurs trucs rouges autour du cou. Et la liturgie chrétienne m'a vraiment marqué. La liturgie chrétienne a une forme de beauté assez formidable.
Donc, mémoire sonore entre liturgie chrétienne et ces fameux marchands de quatre saisons qu'on entendait un peu.
Alors ça, c'est extraordinaire. Donc, mon père étant invalide du travail, il a eu une médaille de la mairie du 11e arrondissement qui lui a permis d'avoir ses voitures de quatre saisons qui étaient donc non pas des épiceries, mais qui étaient en face des épiceries. Mes parents, c'était surtout les fruits. Ils étaient spécialistes des fruits, donc mon père ou ma mère partaient à 3h du matin sur le carreau des Halles et récupéraient la marchandise. Et dans mes souvenirs d'enfance, c'est mes oranges, mes cerises, mes pêches, mes poires, mes prunes, mes abricots. Voilà.
Alors que dans les rues de Babelouet, c'était mes sardines. Mais ça, c'est
voilà,
une autre mémoire.
Ça, c'est une autre mémoire.
Alors justement, racontez-nous comment et surtout à partir de quand votre famille arrive en France.
Alors, c'est une saga. Elle démarre en 1919, lorsque mon père, qui a à l'époque 20 ans, quitte son village de Kabylie pour émigrer en France. Il se retrouve dans le nord de la France à reboucher les tranchées que son propre père avait creusées en 1914. Et donc, cette histoire commence comme ça avec mon père, qui, comme beaucoup de travailleurs émigrés algériens de l'époque, passait 2-3 ans en France, amassait un petit pécule, envoyait bien sûr de l'argent à la famille, à sa belle famille, malheureusement, et c'est que la belle famille mettait la main sur les envois financiers de mon père. Donc, il s'était marié avec ma mère qui avait à l'époque 11 ans. Et mon père, donc, lui avait 20 ans, bien évidemment. Il n'a pas consommé le mariage. Il l'a consommé plus tard quand elle a eu 16-18 ans. Et donc, de 1919 à 1937, il fait des allers-retours entre la France et l'Algérie. Alors, ce que je voulais vous raconter qui est drôle,
c'est la condamnation à mort familiale.
Alors, avant d'y arriver, l'origine du nom.
Dites-moi.
Nous nous appelons Mimoun pour une raison bien simple. C'est que nous venons d'un village qui s'appelait Iril Mimoun, qui est du côté de l'Arban Athirathen, l'ex-fort national, à l'époque de la France.
Donc en Kabylie.
En Kabylie. Et lorsque l'administration française a commencé à attribuer des noms, vous savez que les noms en Kabylie, on est fils de, fils de, fils de. Donc, arrivé à mon père, l'administrateur lui a dit « Mais vous êtes originaire d'où ?»« Ben, d'Iril Mimoun. Eh ben, vous allez vous appeler Mimoun. »
Alors, monsieur Mimoun, racontez-nous cette condamnation à mort familiale dont a été victime votre père.
Ça, c'est terrible. Ma mère, qui était une femme qui résistait, mais qui subissait donc la férule de sa belle famille, a dit à mon père « Moi, c'est plus possible et tout. » Et mon père lui-même, il avait rencontré à Paris la première femme kabyle, qui s'appelait Houria Mahacha. Et il a dit, mais c'est possible de faire venir des femmes? Elle a dit, ben la preuve, mon mari m'a fait venir. Donc mon père a décidé de faire venir ma mère en France. Or, ma mère avait une relation fusionnelle importante avec son frère. Et donc, il s'y est fermement opposé. À l'époque, il n'y avait aucune femme dans tous les villages alentours qui s'embarquait pour la France. Impossible.
Les hommes venaient seuls en France.
Hachemin, la honte, le déshonneur. On n'emmène pas sa femme. On envoie l'argent à la belle famille. Tel était le principe. Donc, mon père, un soir, il prend ma mère sous le bras et les enfants. Il fuit sur Alger, dans la casbah d'Alger, et il les embarque. Et à partir de là, son beau-frère le condamne à mort. Donc il a envoyé des gens, mais dans l'intervalle, mon père a pu embarquer jusqu'à Marseille et ensuite rejoindre Paris.
Voilà, la vie commence dans le 11e arrondissement,
mais la
ça,
vie,
pour,
voilà.
Pour le critique cinéma que vous êtes, c'est déjà un scénario. Enfin, c'est vous qui voyez, à bon entendeur. Donc, vous arrivez dans ce Paris ouvrier, hein,
totalement.
Des années 40. Donc, vous êtes né en 44,
oui.
Au milieu des choux-fleurs et des marchands de quatre saisons, non,
exactement.
À Paris. Et vous restez dans la capitale jusqu'à l'âge de 10 ans. On va être obligé de résumer, hein, Moulouni.
D'accord.
Et vos parents, ce qui m'intrigue, c'est que vos parents font leur valise pour retourner en Algérie à un moment très précis, c'est 1954, pile au moment du déclenchement de la guerre de libération.
Exactement.
Pourquoi retourner au bled à ce moment-là?
Pour deux raisons. La première, c'est que mes parents avaient acheté une maison sur les hauteurs d'Alger, au quartier du Climat de France, près de Bab El Oued. Et la deuxième raison, plus économique celle-là, c'est que j'avais un frère aîné, qui avait donc à l'époque 24 ans, qui était représentant de commerce, VRP, et qui vendait des machines, des photocopieurs, des machines à écrire, des choses comme ça. Or, sa maison qu'il employait, Polyclair, a décidé de l'envoyer comme représentant à Alger. Donc c'était une opportunité.
Oui, donc rien à voir avec l'histoire qui était en marche pour l'Algérie.
À l'époque, non, pas du tout. Même si mon père fréquentait beaucoup la communauté immigrée qui était proche de l'étoile nord-africaine, de Messali Hadj. Je me souviens de manifestations dans Paris, un jour où il m'a emmené à cheval sur ses épaules dans une manif où on a été matraqué, où on s'est réfugié dans une porte cochère. Le nationalisme était très présent.
Alors, vous voilà à Bab El Oued, parce que moi j'essaye de reconstituer D'accord. un peu le fil de votre parcours à vous, Mouloud Mimoun. Vous n'êtes pas loin de la Casbah, dans ce climat de France, hein, c'est le nom du quartier où vous êtes. Comment le petit Titi parisien que vous êtes, en fait, quand même, hein, s'adapte à cette nouvelle vie algéroise?
Très mal. Au début, j'arrive, je baragouinais quelques mots de kabyle, mais à Alger, on parle arabe, l'arabe dialectal. Et puis, je débarque, comme vous disiez fort justement, avec cet accent parigo absolument invraisemblable, qui a fait que j'étais rejeté des deux côtés. Pour les pieds noirs, j'étais ce qu'ils appelaient le pathos, c'est-à-dire le mec de la métropole, qui venait de la France. Et pour les Algériens, j'étais un tourné, un trousé.
Un renversé,
puisque je ne parlais pas l'arabe. Donc la première année a été tellement difficile, en 54, que j'avais une sœur aînée, Louise, qui avait 16 ans, qui devait passer son brevet. Et donc mon père nous a pris sous le bras, elle et moi, et nous a ramené une année en France. Et l'année suivante, quand je suis reparti à Alger, les choses allaient un peu mieux. Mais c'était terrible parce que, je vous raconte une anecdote, je connaissais pas, moi, le blé dur. Moi, j'ai toujours mangé de la baguette, la farine blanche. Oui. Et à Alger, on mangeait le blé dur. Et je trouvais que ce pain avait un goût, avait une odeur qui me plaisait pas. Si bien que mon oncle, qui vivait en France à l'époque, lorsqu'il venait voir mon père à Alger, il ramenait le pain rassis de France que je mangeais avec délectation.
Il vous manquait plus que le béret, quoi.
Il manquait plus que le béret.
Alors vous,
c'est ça la double culture.
Vous qui suiviez les événements d'Algérie, en écoutant notamment sur Europe 1 le journaliste Julien Besançon, là je fais appel à une mémoire très très lointaine.
Absolument.
Je voudrais vous faire écouter une archive sur une manifestation qui éclate dans plusieurs villes d'Algérie, oui, le 11 décembre 1960.
Oui.
C'est une manifestation pour soutenir le FLN et le GPRA, le gouvernement provisoire algérien, pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'était une manifestation en écho aux colons qui avait manifesté quelques jours plus tôt pour l'Algérie française.
Écoutez-moi! Retournez chez vous! Qu'est-ce que vous voulez?
L'Istiklal! Rouhoub l'Aglan! L'Istiklal!
L'avenir de l'Algérie, où est-il?
Automitrailleuse utilisée pour déblayer les rues.
Il est entre vos mains, la force publique, vous autres Algériens,
lancés contre les manifestants,
de quelque communauté que vous soyez. C'est à vous de faire l'Algérie, l'Algérie nouvelle.
Des blessés de part et d'autre.
L'Algérie de demain, c'est à vous.
Vers le soir, quelques milliers de
je crois que pour bâtir votre Algérie de demain,
un bouchon de CRS devait
la France sera à vos côtés.
Mais le drame déjà était joué.
Vive l'Algérie et vive la France.
Mouloud Mimoun, un souvenir sépia pour un sol majeur sur RFI. Que vous rappelle cette manifestation du 11 décembre 1960 à Alger? Quel était le climat?
Beaucoup de choses. Le climat était donc insurrectionnel. C'était la première fois qu'on voyait autant de manifestants dans les rues. Et donc, habitant le climat de France, moi j'étais au croisement de la Casbah, où il y avait une forte contestation, et de l'autre côté, le quartier pieds noirs, des petites gens, les petits pieds noirs de Bab El Oued. Et donc je suis sorti, j'avais 17 ans, à l'époque j'étais à l'école normale d'instituteurs de la Bouzaréa, et donc ça a été un moment important.
Vous étiez pour l'Algérie française ou vous étiez pour l'indépendance algérienne?
J'étais pour l'indépendance. Dans la famille, on était pour l'indépendance. Mon frère aîné s'est fait arrêter pour avoir distribué des photocopieurs et des machines à écrire dans les maquis du FLN.
Mais la famille, donc c'est une chose, mais vous, c'en est une autre, parce que vous avez vraiment ce parcours que vous nous commenciez à nous décrire, hein, la baguette
sûr,
de pain qui est...
Bien sûr, je suis français quelque part. Je suis français surtout par la langue. Je suis français par la culture.
Mais je parle à l'époque, hein.
Mais à l'époque, 1961, j'ai une conscience nationaliste. Je côtoyais des gens de la résistance, du FLN, au point d'ailleurs qu'ils m'ont engagé dans le bureau du FLN du quartier, où effectivement, je tenais, puisque je savais lire et écrire, ce qui était pas très courant à l'époque pour beaucoup d'Algériens, et donc je tenais la permanence de ce bureau du FLN, parce qu'il s'agissait en fait à ce moment-là de se substituer à l'administration coloniale et à faire une administration de l'Algérie indépendante qui n'était pas encore, mais du FLN.
Enfant, est-ce que vous rêviez de faire la révolution?
Oui, je pourrais compléter cette question en sol majeur par cette précision. Vous aviez 16-18 ans finalement au moment de ces événements, de cette indépendance qui pointait, l'âge des grands idéaux quand même, 16-18 ans. Est-ce que vous avez songé, Mouloud Mimoun par exemple, à rejoindre le maquis?
Non. Pas rejoindre le maquis, parce que pour moi, les études à l'école normale d'instituteurs étaient importantes. J'avais d'autres membres de la famille, notamment des oncles, des cousins, etc., qui sont morts au maquis. Il y a eu donc l'arrestation de mon frère aîné. Et puis, voilà, quoi, c'était...
Oui, mais
c'était
les martyrs, ça, mais on sait la place des martyrs dans les familles, à la fois les familles pleurent, oui. Mais sur le buffet trône la photo du frère tombé au maquis pour la bonne cause. Oui, est-ce que vous étiez travaillé par cette
nous,
cause?
Mais nous, c'était plutôt, je vous disais, la famille périphérique, parce que dans notre village en Kabylie, il y avait une cache où s'étaient réfugiés des maquisards de l'ALN, et parmi lesquels j'avais des membres de ma famille.
L'armée de libération nationale.
L'armée de libération nationale. Et parmi lesquels j'avais des membres de ma famille. Et comme on disait à l'époque à Arki, un dénonciateur les a vendus. Et donc, ils ont tous été tués dans cette cache. Et donc, on a, comme toutes les villes, comme tous les villages, comme toutes les régions d'Algérie, payer notre tribut à cette guerre de libération.
Donc vous étiez pour l'indépendance de l'Algérie, oui. Mais en même temps, vous la quittez, cette Algérie, précisément en 62, au moment de l'indépendance.
Voilà.
Pourquoi?
Alors, au lendemain de l'indépendance, j'étais assez marqué par toute cette période, parce que ce qui a été terrifiant, ça a été la période OAS. Lorsque les attentats ont frappé de manière indistincte...
L'organisation armée secrète...
qui représentait les ultras de l'Algérie française et qui un jour abattait les femmes de ménage, un jour mettait une bombe sur le port d'Alger et tuait plus de 100 dockers. Bon, mes parents me gardaient à la maison et empêchaient que j'aille dans le quartier de Bab El Oued, où pourtant j'avais fait ma scolarité le secondaire et où j'avais beaucoup de copains pieds noirs. Mmh. Et un jour, j'ai vu partir mes voisins pieds noirs, fils d'un ébéniste espagnol, Thomas, un jour venu me voir en me disant « Je ne sais pas pourquoi, mais on est obligé de partir. » Et c'est comme ça que c'est fait.
Et vous
vous
sentiez proche de ces pieds noirs, du destin de ces pieds noirs?
Ah ben oui, parce que moi j'ai vécu le métissage avec les pieds noirs. Lorsque j'étais en classe de 6e à Bab El Oued, nous étions 36 élèves dans la classe, nous étions que 8 Algériens. C'est d'ailleurs toujours le chiffre que je donne lorsqu'on me parle de l'œuvre civilisatrice de la France.
Bravo. Alors, il faut qu'on avance quand même dans ce parcours. Vous tombez dans le journalisme à un moment donné, oui. Si j'ose dire. Vous êtes reporter, grand reporter jusqu'en 65. Puis de 65 à 72, vous travaillez pour l'Office des actualités algériennes.
Absolument.
Peut-être qu'informer devient une forme d'engagement pour vous. Pendant ce temps-là, vous faites votre vie aussi en France. La France des années 80 bouge, puisqu'on voit descendre dans ces années-là, dans la rue, des têtes bouclées, en pattes d'ef. On est en 83, c'est la fameuse marche des beurs.
On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout.
À travers cette marche, les organisateurs veulent dénoncer tous les attentats dont sont victimes les immigrés, mais ils entendent également mettre en avant un certain nombre de revendications.
C'est une lutte non violente et on découvre à quel point on est plus armé qu'en étant violent.
Strasbourg, le tournant. Georgina Dufoy, secrétaire d'État, Se joint au cortège,
c'est la dernière ligne droite officielle de ceux qui ont déjà 1200 km dans les jambes. De la Bastille vers Montparnasse, en passant par le pont de Sully, on distribue des tracts.
En partant de Marseille, il s'est passé qu'on lance un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand.
Cette marche des beurs qui se retrouve donc sur les trottoirs dans Sol majeur pour RFI vous a marqué, Mouloud Mimoun, au point de réaliser le documentaire intitulé L'affaire Toumi Djaïdja. C'était l'initiateur de cette marche pour l'égalité et contre le racisme. Pourquoi vous avez fait cette démarche de documentaire ?
Alors, j'ai fait cette démarche parce que pour moi, je considère à l'époque et aujourd'hui encore que la France a raté le virage de l'intégration. Parce qu'à l'époque, les revendications, quelles étaient-elles ? Contre le racisme, pour l'égalité, et il n'y avait pas de connotation religieuse. Il n'y avait pas de montée du djihadisme, etc. Donc ce que demandaient ces jeunes, c'était simplement l'égalité de traitement et les mêmes chances, et qu'on arrête les crimes racistes, puisqu'à l'époque, il y avait des crimes racistes. Le leader de la marche, Toumi Djaïdja, lui-même, quelques années avant la marche de 83, avait reçu une balle dans le ventre parce qu'il était venu séparer une rixe, et la police lui a tiré une balle dans le ventre. Il est resté quelques semaines à l'hôpital. Et pour moi, ça a été très fort parce que un an après la marche, on apprend que Toumi Djaïdja est emprisonné. Et là, donc, je décide de faire une enquête. Et qu'est-ce que j'apprends au fur et à mesure ? Toumi Djaïdja était accusé, on s'en est rendu compte après de manière injuste, d'avoir braqué une grande surface à Saint-Étienne, ce qui n'était pas le cas. Et en réalité, c'était un règlement de compte. Pourquoi ? Le père, harki, analphabète bilingue, ne maîtrisant ni le français ni l'arabe, fumant 3 paquets de cigarettes et buvant 30 ricards par jour. Il était agent hospitalier. Et dans cette famille, il y avait 2 fils. Il y avait Toumi Djaïdja, qui s'occupait de ses petits frères, des études, etc., qui avait créé cette association et qui est donc devenu le leader de la marche. C'était l'ange. Et de l'autre côté, il y avait Amar. Son frère Amar, c'était Al Capone. C'était le démon. Et toutes les polices de France de Navarre étaient après lui. Et donc, les policiers, n'ayant pas pu mettre la main sur Amar, se sont vengés sur Toumi. Et c'est Toumi qui s'est retrouvé derrière les barreaux, lui qui à aucun moment ne le méritait. Donc, voilà, je regrette un peu de ne pas avoir fait ce film.
Bon, mais vous lui avez...
Mais j'ai fait le documentaire.
Le documentaire, vous lui rendez hommage d'une certaine manière. Mais vous, qui enquêtez, qui êtes un journaliste du coup pour le moins engagé, est-ce que vous vous sentiez aussi proche de cette cause ? Vous n'êtes pas qu'un journaliste, vous êtes entre ces deux pays. Est-ce que vous vous sentez proche de la cause des beurs, vous, le beurre à l'envers, là ?
Voilà, totalement.
C'est intéressant votre parcours, parce que vous êtes vraiment au carrefour entre cette Algérie et cette France à travers vos centres d'intérêt. L'Algérie que vous mettez un peu à distance, vous la faites revivre en France, en créant notamment les Nuits du Ramadan dans les années 90.
Exact.
Et puis l'Algérie, vous la vivez en même temps totalement, en étant parallèlement critique cinéma et animateur de la célèbre Cinémathèque d'Alger. Quand je dis ça à une certaine génération, sur le continent où on nous écoute, c'est très parlant. C'était une idée française au départ, créée en 1965 par un disciple d'Henri Langlois.
Jean-Michel Arnold.
Ça aurait pu devenir un petit ciné-club de quartier, et puis c'est devenu le lieu incontournable de la mémoire du cinéma, où les plus grands réalisateurs du monde entier sont venus présenter leurs films, de Simon Ousmane à Costa Gavras, en passant par Fassbinder ou Wenders.
Voilà.
Juste un grand moment que vous avez vécu dans cette cinémathèque d'Alger.
Un grand moment à la cinémathèque d'Alger. Alors, le mois du cinéma arabe à Paris, à la cinémathèque française de Chaillot, en mars 1977, lorsque pour la première fois, le public français et les cinéphiles français ont découvert la richesse, la diversité, la quintessence du cinéma arabe, découvrant notamment des gens comme Youssef Chahine, qui était à l'époque totalement inconnu, Salah Abou Seif, qui est une sorte de Roberto Rossellini version égyptienne, qui a co-créé le néo-réalisme égyptien, et puis ce formidable cinéaste Shadi Abdeslam qui nous a quittés, qui lui était fasciné par le passé pharaonique de l'Égypte et qui a fait un film magnifique en 1969 qui s'appelait La Momie. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'ai des souvenirs personnels parce qu'ensuite, j'étais ami avec Chahine, donc j'ai été chez lui en Égypte. J'étais ami avec Shadi Abdeslam, j'ai été chez lui en Égypte. Il m'a donné son guide qui m'a fait découvrir la vallée des morts. C'est des souvenirs totalement inoubliable. Ça, c'est marquant.
Voilà. Bah, vous êtes dépositaire, en fait, de cette mémoire de la Cinémathèque d'Alger. Alors, je ne vous apprends rien, Mouloud Mimoun. Vous savez que l'un des films les plus vus, en tout cas par les Algériens, au moins deux fois dans l'année, c'est-à-dire en 54, enfin, pas en 54, le 1er novembre, le moment de la déclenchement de la guerre de libération, et puis le 5 juillet, jour de l'indépendance, on rediffuse toujours un film, La Bataille d'Alger.
À tous les camions! Accélérer le transport des réquisitionnés. Premier camion, centre Elbiar. Deuxième camion, l'usine à gaz. Troisième camion, le port. Attention, attention. Prévoir dès maintenant l'affluence des suspects au quartier général.
Allez, Raus ! Raus !
Celui-là.
Toi, viens ici. Attends un peu.
Tu fais la grève, hein ?
Moi, je travaille pas, je suis malade.
Oui, t'as la trouille, t'oses pas le dire. Mais avoue que t'es du FLN. Hey, t'es dans le coup, hein?
Non.
Tu me prends pour un con? Tu crois que ça se voit pas? Le FLN veut te faire faire la grève, et toi, tu veux rien dire, espèce de sale raton. D'accord. Gérard, emmène ce mec-là au bureau. Toi, viens ici. T'es sourd?
C'est comme Cinémascope.
Tout le monde au boulot! Rouille-toi! Avance.
Un extrait en sol major de
La bataille d'Alger,
donc réalisé en 65.
Voilà.
Un certain Malek Ben Smaïl, qui a d'ailleurs fait partie de votre programmation du Maghreb des films, dit à sa manière dans son doc intitulé La bataille d'Alger, un film dans l'histoire, que c'est un film qui a inspiré d'autres révolutions dans le monde. Vous confirmez, vous, critique de cinéma?
Absolument. C'est un film marquant. Et moi qui me relie encore une fois à des souvenirs personnels, puisque à l'époque du tournage du film, je travaillais à l'Office des actualités algériennes, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, et nous étions sur le même palier avec Casbah Film, la société de production de Yassef Saadi, qui produisait La bataille d'Alger.
Alors, Yassef Saadi, il faut redire qui est Yassef Saadi.
Alors, Yassef Saadi, c'était la grande figure du FLN, de la zone autonome d'Alger, qui a mené cette bataille dans la Casbah,
qui joue son propre rôle
dans le film, et qui donc a été à la fois coproducteur du film, co-scénariste du film et comédien.
Qu'est-ce qui vous intéresse sur le plan cinématographique dans ce documentaire fiction?
Ah, ça, c'est la patte de Gillo Pontecorvo. Il a mis au travail Franco Solinas, qui était son scénariste, qui a fait un travail de recherche et de documentation à travers la presse, les archives audiovisuelles, etc., pour ensuite écrire une fiction, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est lorsque le documentaire et la fiction ne forment plus qu'un. Tantôt vous vous dites, tiens, mais c'est du documentaire. Tantôt vous vous dites, ça c'est de la fiction. Et ça, c'est Gillo Pontecorvo.
Une scène en particulier qui raconte ce basculement, ce trouble-là entre docu et fiction.
Qu'est-ce que je dirais La scène où Hassiba Ben Bouali, Ali Lapointe, etc. sont dans leur planque.
Ce sont les héros de la révolution algérienne.
Voilà, et que les parachutistes avancent vers eux en disant « Allez, rendez-vous, sinon on va tout faire sauter. » Voilà.
Et là, on ne sait pas si c'est archive
ou pas.
Ou cinéma. Pourquoi est-ce qu'en tant que critique cinéma, vous avez choisi pendant longtemps, je crois, comme spécialité la guerre d'Algérie?
Oh ben parce que elle s'est imposée à moi, tout simplement, parce que l'essentiel de la production cinématographique algérienne traitait des films de la guerre d'Algérie. Moi, le reproche que je ferais à cette production sur les films de la guerre de libération, ça a été l'héroïsation, c'est-à-dire le fait que c'était des chevaliers bayards, sans peur et sans reproche. Quand on voyait les moudjahidines, ils n'avaient jamais peur, etc. Donc du coup, moi, je retiens quoi ? Je retiens Le Vent des Aurès de Mohamed Lakhdar Amina. Je retiendrai aussi Chronique des années de Brest, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 75. Voilà, il n'y en a pas eu tellement.
Alors, je le disais, Malek Bensmaïl a fait partie de la programmation du Maghreb des films qui se déroule en ce moment dans les salles parisiennes jusqu'au 18 décembre. C'est quoi le but de cette association Mouloud Mimoun ? Est-ce que c'est promouvoir la nouvelle génération du cinéma arabe ? Je pense par exemple à un Tariq Teghia. Ou est-ce que c'est plus globalement créer un fonds du cinéma arabe ?
Bah écoutez, à l'époque, en 2009, lorsqu'on a créé le Maghreb des films avec mes amis Bernard Gentil, Gérard Vaugeois, etc., l'idée était simple, c'est qu'on avait fait un constat très dur. Il n'y avait plus sur les écrans français aucune visibilité pour les productions maghrébines venant de la rive sud. On se réfugiait sur le fait qu'en France, on avait Rachid Bouchareb, on avait des cinéastes de la diaspora.
Nos arabes de service,
voilà,
on peut le dire.
Voilà, nos arabes de service, on peut le dire, même si certains ont du talent. On s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a été régulièrement au Festival National du Cinéma au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Et on a lancé ce Maghreb des films pour lui donner cette visibilité.
Votre coup de cœur, rapidement, votre coup de cœur pour cette édition 2018 ?
Pour l'édition 2018, c'est un film, un premier long métrage d'une jeune cinéaste qui s'appelle Yasmine, comme vous, Chouir. Et
fille de Mohamed ?
Fille de Mohamed Chouir, le comédien, et de Yamina, sa femme également monteuse et réalisatrice. Et ça s'appelle « Jusqu'à la fin des temps ». On va le passer le 17 décembre prochain au Louxor. Et pour la première fois dans un film arabo-musulman, est abordé le thème de la mort. Et ça, c'est rare.
On va faire un petit jeu.
Oui.
Mouloud Mimoun, je vais vous bander les yeux.
Oui.
Et vous balancez pendant une petite minute un extrait de film pour que le critique cinéma nous décrypte, c'est votre boulot en fait, hein,
oui,
la scène en question. Je ne vous prends pas en traître, hein, puisque c'est un film que vous kiffez, ça s'appelle Danse avec les loups. Extrait.
Come. Please, sit down. Sit down. Wait, just a minute.
What's it gonna mean, though?
Here. Tatanka. Tanka?
Tatanka.
Tanka.
Tatanka.
Tatanka. Buffalo.
Oh. Buff.
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 Buffalo. Tatanka.
Stay.
The fierce one, as I call him, seems a very tough fellow. I hope I never have to fight him. From the little I know, he seems to be honest and very direct. I like the quiet one immensely. He's been patient and inquisitive. He seems eager to communicate. I would conclude that he is a man of some weight among his people.
Vous êtes au cinéma et sur RFI avec un officier nordiste décoré de la guerre de sécession qui est surnommé Danse avec les loups.
Voilà.
Pour son rapprochement avec les Sioux, Kevin Costner dans le rôle de l'officier. Voilà, les Cherokees.
Cherokees, oui.
Pour un sol majeur, un petit décryptage de cette scène, Mouloud
Mimoun. Alors, c'est une scène où il est en pleine phase d'apprentissage de la langue Cherokee. Et donc, c'est pour ça qu'on entend le mot Tanka, 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 pour désigner le bison. Kevin Costner, donc cet officier nordiste, apprend la langue Cherokee. Pour moi, Danse avec les loups, c'est certainement l'un des plus beaux films pro-indiens qu'on ait fait depuis longtemps. Le premier film pro-indien a été fait en 1950, ça s'appelait La Flèche brisée. Depuis, il y en a eu très peu, Mais dans les années 70, quand j'ai travaillé à m'occuper d'acheter les films étrangers pour l'Algérie, il y avait beaucoup de films pro-indiens. Il y avait Le Soldat Bleu de Ralph Nelson, il y avait des films comme ça, magnifiques, magnifiques.
Premier film pro-indien, comme vous dites, premier, grand film sur l'altérité aussi, on pourrait dire.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de la voix off qu'on vient d'entendre dans cet extrait ?
Elle apporte un plus. Pourquoi ? Parce que toute l'intrigue du film repose sur le fait que Kevin Costner a un calepin sur lequel il écrit, il dessine tout ce qu'il découvre, tout ce qu'il apprend auprès des Cherokees. C'est splendide.
Donc on est dans la tête de ce personnage
qui est
à la rencontre de l'autre.
C'est ça.
Je vais vous remettre le bandeau pour une autre scène avec un extrait cette fois de Babel West City,
ouais,
de votre ami Mirza Kalouache apparemment, où il est question d'intégrisme à Alger dans les années 90, même sur une plage.
Salam alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Donc le noyau dur des islamistes qui commencent à prendre le pouvoir sur le quartier et sur la jeunesse du quartier se retrouve avec d'autres jeunes, notamment un jeune commis boulanger qui va déclencher le drame à partir du moment où il a décidé de jeter à la mer le haut-parleur avec les prêches religieux qui l'empêchent de dormir la journée puisque lui, boulanger, travaille la nuit. Donc là, on a entendu les autres lui dire « Tiens, je vais te donner une cassette, tu vas l'écouter, elle vient de Syrie. » Et puis le jeune boulanger lui dit « Mais moi ça m'intéresse pas, moi tu sais ce qui m'intéresse, c'est la musique shabi, c'est ça, moi ça m'intéresse pas. » Il dit « Ah, vous, on va vous changer votre mentalité, vous allez voir ce que vous allez voir, les choses vont changer dans ce quartier. »
Qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors, dans cette scène en particulier, la langue est magnifique. Hein, et dans ce film qui a pour thématique donc la naissance de l'islamisme en Algérie.
Voilà, ce que j'aime bien dans ce film, Babel West City, c'est qu'on voit la genèse de la montée de l'islamisme dans un quartier. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même l'imam du quartier, qui est un vieux barbu, sympathique, chaleureux, etc., se fait déborder par les jeunes. Pourquoi ? Parce que sont rentrés d'Afghanistan, ce qu'on appelait en Algérie les Afghans, donc les premiers intégristes algériens étaient Afghans, et qui, progressivement, allaient imposer leurs lois dans le quartier. Et tout ceci, Alouache l'a montré de manière intelligente, subtile, avec une mise en scène comme ça, fluide. En plus, il l'a tourné avec le danger permanent. Il était dans Babel Oued. Et ça a été juste. D'ailleurs, c'est après qu'il s'est installé en France, Merzak.
Alors, on sent bien votre amour du cinéma, on sent bien votre regard de journaliste sur le cinéma. J'imagine que vous avez eu des maîtres en la matière, Mouloud Mimoun. En quoi un certain Hervé Bourges, qui est journaliste que l'on sait, et dirigeant de l'audiovisuel, on va dire franco-algérien, et même surnommé Mohamed Bourges. Hein.
Voilà.
En quoi il a été important pour vous ?
Ben, elle était importante toute ma vie parce que je l'ai connue à Alger au lendemain de l'indépendance en 1963, où il était successivement conseiller du président Ben Bella, puis ensuite du ministre de la Jeunesse et des Sports qui s'appelait à l'époque Abdelaziz Bouteflika.
Mais en quoi pour le journaliste et critique cinéma qui aime décrypter justement les films, en quoi il vous a été utile ?
Il m'a aidé tout au long de mon parcours. Lorsque je suis venu en France en 72 faire ma maîtrise en sciences de l'information, il m'a recruté comme animateur pour m'occuper des troisième années des écoles africaines de journalisme dont il avait la direction, Yaoundé et Dakar. Donc déjà j'étais à ses côtés.
Vous diriez qu'il vous a légitimé en tant que journaliste des deux rives ?
Oh oui, c'est très juste ce que vous dites. C'est une légitimation de sa part, je sais qu'il est actuellement souffrant, donc je lui adresse mes pensées les plus fortes.
On va encore pleurer, je le crains, cher Mouloud Mimoun, avec Jamel Alam, ce troubadour des deux rives qui s'est éteint en septembre dernier. dont on va entendre une chanson en kabyle que vous allez nous dire.
Oui, Urtsuru.
Qui veut dire ne pleure pas. Alors, ne pleure pas, c'est la thématique, c'est quoi ? Ne pleure pas parce que...
Ne pleure pas parce que la mère, le fils de cette dame qui a 16 ans, a rejoint le maquis. Et donc, la chanson lui dit, mais ne pleure pas, la vieille, ne pleure pas. Ton fils, un jour, il reviendra. Et bien sûr, il ne reviendra pas.
الكفاح قل غوابي ستة شين السنة قل جيبي ميت تفاذق غنيس تسودنات يلحنكي يموتا واذق أني تجيدي روح أمي
كنون صوت أغرم وتجي سرسد سنة تبصي أماكن قخام يقل
إن شاء الله ديوغا أتحر زادي قربي أذتو ست جوجة ست مغارة ورتسرو 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 أثا مغار ورتسرو ورتسرو ما ذكيش هديوها
Un petit peu de figue de barbarie, version Jamel Alam dans les larmes de Mouloud Mimoun, journaliste et critique cinéma, qui s'offre deux présidents sur grand écran.
Maintenant, dans les relations entre États souverains et indépendants, on demande aux Algériens d'écrire à Nantes. Même les citoyens d'Indonésie ou de Malaisie ou d'Argentine n'écrivent pas à Nantes pour avoir des visas. Alors qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter ? J'appelle ça tutelle, j'appelle ça protectorat, j'appelle ça souveraineté limitée et je dois vous dire que je me battrai par tous les moyens, sur tous les fronts, pour briser le principe de souveraineté.
J comme j'ai deux amours.
La colonisation a introduit une modernité par effraction. Des dizaines de milliers d'instituteurs, de médecins, de fermiers ont beaucoup donné à l'Algérie. Les pieds noirs ont été les victimes de la politique algérienne de la France, avant comme après la guerre. Les harkis ont été les victimes de la trahison de l'État français. Nous les avons abandonnés alors qu'ils s'étaient battus dans nos rangs. Enfin, il est temps de laisser le passé passer.
Bouteflika d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. C'est qui votre président aujourd'hui, Mouloud Mimoun ?
Oh, c'est quand même Macron.
Ah bon ?
Je suis en France, donc c'est Macron. Mais Bouteflika, je lui garde quelque chose d'assez particulier parce que je crois que vous avez parlé de cette anecdote. Bouteflika a eu une longue traversée du désert après la mort de Boumediene. Il a passé 20 ans en exil et j'ai continué à le voir à titre personnel puisque je l'avais connu comme ministre de la Jeunesse et ministre des Affaires étrangères en Algérie avec Bourges. Et donc j'allais le voir à Paris dans le 15e arrondissement et j'ai... Un petit titre de gloire, c'est que je lui ai fait découvrir Tocqueville.
Ah, est-ce qu'il s'en souvient ?
En 99, dans sa première campagne de presse, il s'en souvenait.
Oui.
Aujourd'hui, un peu moins.
Un mot sur votre président, Emmanuel Macron, qui donc, après avoir qualifié la colonisation française en Algérie de crime contre l'humanité, reconnaît qu'il y a eu aussi dans cette colonisation des éléments de civilisation. Hein. C'est pour altérer un petit peu la polémique. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette sortie d'Emmanuel Macron sur la colonisation ?
Ben, je me suis félicité quand je l'ai entendu qualifier de crime contre l'humanité la colonisation, parce que c'est le cas. Sinon, ça voudrait dire qu'on ferme les yeux sur les enfumages, sur les massacres, etc.
Je veux dire,
la torture. Moi, ce que je voudrais, c'est pas la repentance, c'est pas important, mais c'est simplement d'assumer. La France est un grand pays. Elle doit assumer aussi ses heures sombres, ses pages sombres.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que disait le poète Jean Amrouche, donc issu d'une famille christianisée et francisée de Kabylie pendant la période coloniale. Il disait « La France est l'esprit de mon âme, l'Algérie est l'âme de mon esprit ».
C'est pas mal.
Est-ce que vous diriez la même chose ou ?
Je dirais la même chose.
Vous êtes entre les deux et en même temps, anthropologiquement, je dirais, je vous sens plus français qu'algérien. Est-ce que ça vous choque si je vous dis ça ou
pas ? Non, vous ne me choquez pas. Vous ne me choquez pas du tout parce que même si la part algérienne, elle est importante puisque j'ai eu la chance de vivre 18 ans en Algérie, d'apprendre l'arabe, etc. Mais oui, ça reste, je reste marqué par la culture française. Et ce n'est pas un hasard si je me suis retrouvé journaliste et critique de cinéma, essentiellement en langue française.
Pour moi, le cinéma arabe.
Voilà, pour parler du cinéma arabe, c'est encore un autre paradoxe.
Au contraire, c'est votre double culture.
Oui, voilà, c'est la double culture, exactement.
En sol majeur, @rfi.fr.
À ne pas rater le Maghreb des films, donc, qui se déroule en ce moment jusqu'au 18 décembre à Paris et dans les salles partenaires de cette association, c'est-à-dire au cinéma Saint-André-des-Arts, à la Colonie, à l'ENS et au Louxor. Et puis pour se consoler de tous nos chagrins et de tous nos ratages, c'est un mot qui est revenu souvent dans cette conversation, un petit Love Me Tender d'Elvis Presley. Oh. Vous l'avez joué ça aussi devant le miroir ?
Ouais, mais 14 ans.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me and we'll never part. Love me.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Fanny Glissant. À demain.
And